cet échange autour de ce sujet et puis qui vont, j'espère, permettre d'ouvrir des discussions avec la salle. Alors évidemment, la thématique énergie est extrêmement vaste. On aurait pu embrasser plein de dimensions de cette thématique. Et donc, on va avoir une entrée en matière avec les présentations, les interventions des intervenants et intervenantes. Mais n'hésitez pas ensuite, évidemment, à venir ajouter des dimensions à ce sujet et à ce problème au travers de vos interventions tout à l'heure. Je vais déjà présenter les personnes qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Ben, je vais le faire dans l'ordre des personnes qui sont à côté de moi en avançant au fur et à mesure. Donc, André Meunier. André, tu es économiste de l'environnement, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Lorsqu'on a échangé ensemble en préparation, tu as tenu à souligner que tu avais fait ta thèse sous la direction de Jean-Marie Arribet, qui était cofondateur de ATAC et très intervenant sur les questions de développement soutenable. Et Jean-Marie Arribet, il avait lui-même fait sa thèse avec Serge Latouche, penseur de la décroissance. Donc voilà, ça montre un peu l'héritage et la filiation dans laquelle il est inscrit. Et depuis, tes travaux, ils portent notamment sur l'économie de la Chine, les trajectoires environnementales des pays émergents et les transitions européennes. Merci. Donc ensuite, Alain Bordarel. Alors Alain, lorsqu'on a discuté ensemble pour préparer la table ronde, il a dû présenté aussi initialement comme un bâtisseur de terrain, ingénieur de formation, et tu as créé en 1986 le bureau d'études Tribu, qui était spécialisé sur les questions de bâti et de l'urbanisme. Tu as consacré une large partie de ta vie professionnelle à être partie prenante de toutes les questions environnementales dans ces domaines-là, et tu as été ainsi concepteur dans des équipes avec des architectes, d'autres bureaux d'études, de bâti éco-responsables. Aujourd'hui, tu es retraité. Et tu m'as dit que, comme beaucoup de retraités, tu t'étais réinvesti dans l'associatif. Et donc, tu as notamment été en 2018 à l'origine du, je cite, « manifeste pour une frugalité heureuse et créative ». Donc, tout à l'heure, on pourra discuter de frugalité avec toi. Ce manifeste, il a recueilli 16 000 signatures. Il a généré l'émergence d'une quarantaine de groupes sur le territoire français, dans les DOM et à l'étranger. Et ça traduit un mouvement de fond qui est en train de se structurer. Donc, à côté d'Alain, on a Marie Darzac. Donc, toi, tu as une formation universitaire en droit, mais c'est surtout au titre de citoyenne habitant à Cap-Breton dans les Landes et membre depuis 2011 du collectif Stop THT 40 que tu interviens aujourd'hui à cette table ronde. On commencera la table ronde tout à l'heure justement par la lutte dans laquelle vous êtes engagé. Le collectif Stop THT 40 n'ayant pas d'entité juridique, vous avez monté une association de loi 1901 qui s'appelle Land Aquitaine Environnement pour permettre de porter les recours nécessaires et tu es présidente de cette association. Et avant de te donner la parole tout à l'heure, je redirai quelques mots sur cette lutte dans laquelle vous vous inscrivez. Et puis pour terminer cette table ronde, notre quatrième intervenant, c'est Julien Carret. Donc toi, Julien, tu es physicien, tu es professeur à l'INSA à Toulouse. Tu as longtemps travaillé dans le domaine des high-tech et des nanotechnologies, avant de t'orienter plus récemment sur une recherche scientifique en low-tech. Voilà, tu pourras nous préciser exactement sur quoi porte ta recherche. Tu es penseur de l'après-pétrole, tu as signé un ouvrage intitulé « Sans pétrole et sans charbon », ouvrage à destination des honnêtes gens souhaitant réfléchir de manière méthodique à l'avenir technique de l'humanité. Et tu es très engagé face au bouleversement écologique en cours, tu es très actif au sein de l'ATECOPOL, l'Atelier d'écologie politique à Toulouse, et tu es membre du mouvement scientifique en rébellion. Alors, Marie, nous allons commencer avec toi et pour expliquer un peu le projet auquel vous vous opposez, c'est celui d'une ligne à très haute tension, 400 000 volts. C'est un projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne, d'une puissance hors norme, et c'est un projet qui est porté par RTE, un acteur public bien particulier. Donc, pour commencer en fait cette table ronde, on a décidé de partir sur un témoignage, le tien. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, déjà nous connaissez l'origine de ce projet d'interconnexion, il vient d'où, il date de quand, et nous en retracer la façon dont il s'est peu à peu développé au fil de concertations, avis techniques, enquêtes publiques, etc., pour nous expliquer enfin les points précis sur lesquels vous vous opposez à ce projet.
Oui, merci Catherine. Comme toutes les interconnexions, ce sont des projets qui sont fixés par l'Europe, puisque l'Europe impose à tous les États membres d'avoir au minimum 10% de leur capacité de production en interconnexion. Et c'est comme ça que ce projet est né, je dirais, entre la France et l'Espagne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces 10% sont des critères complètement arbitraires, c'est-à-dire qu'on ne tient absolument pas compte des spécificités de chaque État. Donc en 2012, RTE a déjà commencé avec son homologue espagnol, Red Eléctrica, à engager des études de faisabilité. C'est un projet qui, en théorie, était totalement sous-marin. Il part de la centrale du Blayais et rejoint donc l'océan aux Porges pour arriver en Espagne sur Gatica. En 2013, l'Union européenne a reconnu cette interconnexion comme un projet d'intérêt commun. C'est à partir de ce moment-là que la France se doit d'étudier donc, le dossier qui a été présenté dans un premier temps à la Commission de régulation de l'énergie. Cette commission a été créée en 2000 avec le marché européen de l'énergie puisque les interconnexions restent des prérequis à ce marché européen. On constate qu'à partir de 2016, cette autorité administrative qui est indépendante, donc cette commission, qui est indépendante, je tiens à le préciser à ce moment-là, vis-à-vis de l'industrie de l'énergie, mais également des gouvernements, elle a normalement un rôle de protection, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas engager des projets qui pourraient coûter aux consommateurs et qui resteraient à la charge des consommateurs. Elle doit donc veiller à différents critères. En 2016, elle émet un rapport extrêmement documenté sur lequel elle estime que ce projet est tout simplement poussé par l'Europe mais n'est absolument pas utile. Alors en ce qui concerne la France, nous avions nous déjà atteint le 10%. L'Espagne, effectivement, ne les avait pas atteints. Mais les interconnexions qui existaient donc en 2016 étaient déjà sous-exploitées, sous-utilisées. Et donc il n'y avait aucun intérêt à engager ce projet à grands frais qui allait créer de nouvelles surcapacités. En plus, on n'avait aucune visibilité quant à la faisabilité technique du projet. En l'occurrence, ce projet totalement dans l'océan devait franchir ce qu'on appelle le gouffre de Cap-Breton, qui est un canyon sous-marin. Et nous n'avions aucune visibilité technique et à partir de là, aucune visibilité non plus au niveau du coût et de la rentabilité. Manque de chance, en février 2017, cette autorité administrative, qui est la commission de régulation, qui était présidée par M. Philippe de la Doucette, a été remplacé par Jean-François Carenco. Il a été nommé donc, par M. Macron, président de la République, à ce poste. M. Carenco est un énarque, ex-préfet, et à partir de ce moment-là, on a vu un véritable basculement. C'est-à-dire que dès le mois suivant, mars 2017, sous la pression combinée et de l'Europe et de notre gouvernement, M. Carenco a immédiatement relancé ce dossier, sans aucune étude. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument pas plus de documents, et nous le savons puisque nous avons demandé ce qui s'était passé entre le départ de M. Philippe de la Doucette et ce rapport accablant et ce relancement du dossier. La commission nous a répondu qu'il n'y avait aucun document. Donc c'est quand même assez surprenant de voir qu'on est capable, dans un premier temps, d'avoir une vision très objective de ce qui se passe et de refuser d'engager. À l'époque, nous étions à 1,7 milliard. C'était l'une des interconnexions les plus chères parce qu'il y avait effectivement justement un défi technologique qui consistait à franchir le gouffre de Cap-Breton. Et lequel défi, d'ailleurs, technologique, en 2018, a permis à RTE et son homologue espagnol de percevoir une subvention jamais égalée de 528 millions d'euros. Ce qui est quand même exorbitant. Donc en 2018, ils ont cette subvention, il n'y a pas de problème. Et à partir de ce moment-là, RTE engage des études pensait qu'elles étaient faites, mais non, et constate que le gouffre de Cap-Breton est infranchissable et par conséquent ne retourne pas devant la Commission européenne pour rendre les 528 millions d'euros octroyés. Et à partir de ce moment-là, il engage une forme de concertation, ce que eux appellent une concertation, en 2020, en nous annonçant que puisque le gouffre n'est pas franchissable, il va y avoir un contournement terrestre. Donc c'est à ce moment-là que le collectif se forme, parce qu'on s'est dit attention, danger. On ne pensait pas, franchement pas arriver à ce stade-là. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, on est rentré dans une forme hypocrite de consensus qui n'existe absolument pas. En plus, nous étions en pleine période Covid, donc on a eu droit à un débat public qui se passait via des visioconférences. Dans ces visioconférences, pendant 45 minutes, vous avez le porteur de projet qui vous sort ses PowerPoints en vous disant que tout est parfait. On vous donne la parole sur le dernier quart d'heure, on choisit les personnes à qui on va tendre le micro. Si vous êtes un peu trop précis sur votre demande, on vous coupe simplement le micro de façon à ce que vous puissiez arrêter. RTE a toujours le dernier mot, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrecarrer ce qui vient d'être dit puisque votre micro est coupé, mais ça s'appelle un débat public et une concertation. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Tu me demandais comment le projet avait été progressivement réorienté, et bien c'est de cette façon-là en fait. À partir de là, les choses vont aller très 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 vite. C'est-à-dire qu'en juin 2021, il y a une réunion qui a lieu et on nous donne le tracé qui va être ce tracé de contournement, qui va impacter 5 communes sur 27 km. Qui va donc détruire des forêts. On parlait tout à l'heure des Landes, on va en faire dedans. Cette ligne va détruire des dunes, parce que pour sortir et rentrer ce câble sous-marin et transformer en câble terrestre, ça demande des infrastructures énormes dans les dunes, dans le cordon dunaire, où on sait que c'est quand même une zone extrêmement fragile. En juillet, donc un mois après que on nous ait présenté ça, nous, bien sûr, nous nous y sommes opposés. Et surtout, on avait posé une exigence également, parce que cette ligne qui est enterrée à un mètre sous nos pieds va passer à proximité d'écoles, va passer dans des quartiers, sous des lignes, sous des pistes cyclables. Donc on avait exigé qu'il y ait au moins un principe de précaution qui soit appliqué. C'était le premier point. Et d'autre part, qu'il y ait ce qui nous semblait extrêmement important, puisqu'on est sur la ligne la plus puissante en France, qui va être enterrée à un mètre sous nos pieds, d'avoir au moins une étude d'impact santé publique, qui tienne compte également, je dirais, des autres fréquences qui existent sur le territoire. Parce que c'est un peu trop facile de... Nous, RTE nous donne une simulation, donc il est le seul engagé dans cette simulation, si tant est que ça puisse l'engager d'ailleurs. Et on n'a absolument aucune information de la synergie que ces ondes électromagnétiques vont pouvoir avoir avec d'autres fréquences qui existent sur le territoire. Et ce cocktail, en fait, personne ne veut en parler, et ça, c'est scandaleux. Bien sûr, tout nous a été refusé. C'est-à-dire que la préfète, un mois après la présentation du tracé, ça vous laisse quand même peu de temps pour réagir, la préfète a validé ce qu'ils appellent le fuseau de moindre impact, donc le tracé. Et un mois et demi après, donc c'était là, nous étions en juillet, en septembre, la ministre, qui était Madame Pompili à l'époque, a validé le dossier. Donc il faut savoir que les ministres valident le dossier sans avoir aucune étude d'impact environnemental, aucune étude d'impact santé publique, mais le tracé est quand même validé et les procédures arrivent après. Par contre, nous, ce que l'on constate, c'est que ce tracé qui a été validé sans rien, aujourd'hui, n'a absolument pas bougé. Il n'y a pas une virgule qui a bougé dans ce tracé. Donc on part du principe que tout était déjà, les dés étaient déjà jetés et que tout ce qui arrive derrière, c'est un peu de la mascarade. On a eu effectivement, au niveau des grandes étapes de négociation que tu me demandais, une première étude d'impact qui a eu lieu fin 2022. Il faut savoir que lors de cette étude d'impact, 98% des avis exprimés étaient des avis opposés au projet ou au tracé en l'état. On a dans cette étude d'impact découvert que l'autorité environnementale mettait totalement en doute les dires de RTE. On a un dossier qui est vide, où il y a des confusions parmi les espèces, où il y a des imprécisions. Et on a également découvert, et c'est là le point intéressant pour nous, que le Conseil national de la protection de la nature, qui est une instance d'expertise scientifique et technique, qui, à mon sens, devrait être les seuls experts capables de pouvoir poser un avis dans ce dossier, ont donné un avis défavorable en précisant qu'il y avait une absence inquiétante d'études d'impact en ce qui concerne l'océan, par exemple. Mais RTE a répondu qu'il n'y avait pas besoin d'études d'impact puisqu'il n'y avait pas d'impact dans l'océan. Une étude d'impact complètement bâclée en ce qui concerne le tracé terrestre. Normalement, elle doit se faire sur 4 saisons. On sait très bien que là, les choses elles se sont faites en 3 mois de temps. Donc, aucun respect au niveau des espèces. Ce qu'il a également remarqué, et à juste titre, c'est que puisque ce tracé totalement sous-marin ne pouvait pas se faire en raison du gouffre de Cabreton, ben, il devait étudier ce qu'on appelle une solution alternative et, qui consistait à avoir un tracé totalement terrestre, hein, de Bordeaux à Saint-Jean-de-Luz, le long des infrastructures ou autoroutières ou ferroviaires, puisqu'il y a des concessions qui sont prévues à cet effet et que là, on est sur des terres dégradées. La problématique, c'est qu'RTE a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une solution alternative, mais d'un projet alternatif. On a quand même fait remarquer que le projet, c'était d'échanger de l'électricité entre l'Espagne et la France et que ça n'avait jamais été de mettre un câble sous-marin dans l'océan. Mais ça n'a absolument rien donné. On a quand même eu espoir au niveau de l'enquête publique. On s'était dit que cet avis allait probablement être prépondérant et que l'enquête publique allait accorder un avis défavorable, ou tout au moins favorable avec réserve, puisque la solution alternative n'avait pas été étudiée. Eh bien non, pas du tout. La commission d'enquête publique a reconnu qu'effectivement la solution alternative n'avait pas été étudiée. Elle a reconnu que l'étude d'impact était très lacunaire, mais néanmoins elle accorde un avis favorable. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que lorsque vous avez 98% des avis exprimés qui s'opposent et qui prennent une gifle avec un avis favorable de cette façon-là, là on tombe à la renverse. Derrière, il y a eu une deuxième étude d'impact, donc au mois de mai de cette année, tout simplement parce que pendant la première étude d'impact, RTE s'était rendu compte que finalement le budget, qui était déjà un budget exorbitant, qui pouvait s'expliquer par le défi technologique du passage du gouffre, n'était plus suffisant. Et donc là, on a eu une deuxième enquête publique dont l'intitulé était très simple, c'était porter à la connaissance du public l'augmentation du coût d'1,7 milliard à 3,2 milliards. On passe toujours pas le gouffre, mais on continue d'augmenter. On avait aussi dans cette enquête, dans cette deuxième enquête publique qui a donné un avis favorable, une phrase assez, qui nous a vraiment interpellés, c'est que la commission d'enquête estimait que ce projet pouvait être rentable, alors qu'elle n'avait aucun document comptable, si et à condition que le prix du gaz continue d'augmenter. Et là, vous vous dites, mais comment peut-on prendre de telles décisions, imposer un projet qui est quand même à la charge, qui restera à la charge des consommateurs, dans un dossier complètement vide avec des hypothèses en ce qui concerne le rapport coût-bénéfice. À partir de là, puisque nous avions un avis favorable sur la première enquête publique, deuxième enquête publique, on se doutait bien que les autorisations allaient être signées. Alors que l'autorisation environnementale de destruction des espèces protégées ne peut être octroyée que s'il y a une absence de solutions alternatives. Là, il n'y a pas une absence de solution alternative. Il y a une solution alternative qui est très claire, mais que le porteur de projet refuse d'étudier. Et bien, malgré ça, le 20 septembre, nous avons les 3 préfets, donc Landes, Gironde et Pyrénées-Atlantiques, puisqu'on est sur un arrêté interpréfectoral, qui ont signé les autorisations de dérogation aux espèces protégées, une autorisation de détruire, hein, c'est pas autre chose. Et derrière, le 20 septembre, on a le ministre, madame ministre de référence, madame Pannier-Runacher, qui, elle, a signé la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire la DUP. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que l'avis l'avis de la commission d'enquête publique ne nous donne aucun élément qui justifie ce projet. On a la commission de régulation de l'énergie qui, jusqu'au changement en fait, de président, a reconnu que ce projet n'était économiquement pas rentable ni utile, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, on constate que toutes les autorisations sont octroyées parce que finalement, on n'est pas dans un projet économique, mais on est dans un projet purement politique. Et ça, c'est une catastrophe pour nous.
Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage. Alors, on a trouvé intéressant de démarrer la discussion avec ce témoignage et cette lutte, parce que finalement, elle est emblématique et elle porte en son sein un certain nombre de pistes de réflexion. Vers la fin de la table ronde, on ira vers ce que t'exprime finalement ce sentiment de mépris, de gifle, d'incompréhension, d'injustice totale. Et donc on finira par ça. On va essayer de revenir un tout petit peu en amont dans notre réflexion justement et de se demander finalement ce projet, qu'est-ce qu'il traduit comme vision et comme rapport à l'énergie qu'ont les dirigeants et le modèle de croissance dans lequel on est inscrit. Et donc, Julien, si tu peux effectivement prendre la parole pour nous faire un point peut-être sur, au regard de ce que Marie vient de nous exposer, en quoi ce projet, il semble s'inscrire finalement dans une certaine stratégie énergétique. Il nous dit quoi, en fait, sur notre rapport à l'énergie, et peut-être aussi réexpliquer un peu les différentes formes d'énergie, leurs différentes formes d'efficacité, parce que quelque part on est sur quelque chose là qui est, c'est un projet d'électrification en fait, enfin en lien avec de l'électricité, et donc on pourrait se dire, c'est pas, en plus si cette électricité vient de centrales nucléaires, c'est décarboné, enfin finalement on touche à d'autres problématiques. Donc est-ce que tu peux nous faire ce point d'ensemble s'il te plaît?
Oui, ça marche, merci beaucoup. Je voudrais repartir peut-être de ce qui nous a motivé pour être ici, qui est la COP et le réchauffement climatique, pour rappeler qu'actuellement on a 80% de notre énergie qui provient des énergies fossiles, et que si on veut les réduire, finalement il y a deux grandes voies, on va dire, c'est d'une part réduire drastiquement nos usages, notre consommation, etc., plutôt la voie de la décroissance. Et ce qui peut aussi aller de pair, c'est remplacer les énergies fossiles par d'autres sources d'énergie qui sont plutôt bas carbone. Et c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que ça fait le lien avec ce que disait Marie, c'est plutôt ce qu'on appelle l'électrification. Et l'électrification, pas avec n'importe quelle source d'électricité, mais plutôt des sources d'électricité bas carbone. Et globalement, quand on regarde le paysage des différentes sources d'électricité ou d'énergie bas carbone, en fait, il y a toute une zoologie hein, que vous connaissez toutes et tous probablement. Les plus connus, et j'y reviendrai, c'est les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, et également, vous avez entendu parler des barrages hydroélectriques, la méthanisation, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, les centrales nucléaires, etc. En fait, le truc, quand on se penche sur ces différentes manières de produire l'électricité, elles ont toutes, je crois, des caractéristiques différentes, et notamment des impacts environnementaux, mais qui sont différents. Et chacune de ces caractéristiques, quand on les regarde, on peut les caractériser par leur coût, le temps de déploiement, les matériaux nécessaires, les émissions de CO2 associées, etc., et les impacts sur l'environnement. Je vais prendre deux exemples. Je ne vais pas prendre parmi les plus clivants, je ne vais pas parler du nucléaire, mais si on prend par exemple les barrages hydroélectriques, les barrages hydroélectriques nécessitent quand même à un moment donné d'inonder des vallées, nécessitent d'utiliser beaucoup de béton à un moment donné, et puis ils ont une caractéristique aussi qui est importante parmi toutes ces sources d'électricité, c'est par exemple leur sensibilité au réchauffement climatique. Donc si on se prévoit de construire des infrastructures pour l'électricité dans 30 ou 40 ans, enfin voilà, il faut prendre aussi ce genre de choses en compte. Autre exemple, c'est l'utilisation de la biomasse. On parle souvent, beaucoup d'industries veulent utiliser la biomasse. Dans ce cas-là, on a des caractéristiques assez particulières, puisqu'on a par exemple la limitation en ressources. Vous savez que la photosynthèse, et j'y reviendrai tout tout à l'heure, les résidus de l'agriculture sont limités, comme on va rentrer en compétition avec l'alimentation, donc ce n'est pas forcément souhaitable. On a le rendement de forêt qui diminue et qui va continuer à diminuer avec les risques de réchauffement climatique. Donc tout ça fait qu'en fait, dès qu'on commence à réfléchir sur quels sont les bons, entre guillemets, moyens de produire de l'électricité, c'est en fait extrêmement compliqué. Et actuellement, dans quasiment tous les scénarios de transition énergétique, en fait, deux moyens de produire l'électricité émergent. Je ne dis pas vraiment cette raison, je ne vais pas détailler ici, mais c'est les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, qui en plus sont là plutôt bonne idée d'être complémentaires, puisqu'on a globalement plus de vent en hiver et plus de soleil en été. Le problème, vous le savez toutes et tous, c'est que ces sources d'électricité sont intermittentes, et c'est là qu'on doit faire le lien avec les projets de RTE. Du coup, la vision de l'Europe du développement des énergies renouvelables massives, parce qu'il faut rappeler que ces développements doivent être extrêmement importants si on veut compenser la dette des énergies fossiles, le développement de ces sources d'électricité, dans la vision de l'Europe, va nécessiter d'interconnecter massivement différentes régions d'Europe, de manière à ce que quand il y a du soleil en Espagne et de l'ombre dans une autre partie de l'Europe, on puisse exporter cette électricité. Quand il y a du vent en Allemagne et pas de vent ailleurs, on puisse exporter l'électricité, etc. Et donc quand on regarde les projets de RTE à ce sujet, ben justement, il y a des cartes, hein, elles sont disponibles, vous pouvez les voir, les cartes de RTE, qui montrent quelles sont les prévisions à 20 ou 30 ans de RTE pour la production d'électricité. Et on voit qu'en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est faire grossir les tuyaux de peu près tout le réseau électrique français, européen, etc. Donc finalement, là, on est dans une vision où on se dit nos besoins actuels, nos consommations actuelles ne vont pas diminuer, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en cause notre niveau de consommation de manière drastique, et on va développer un réseau électrique qui va être fiable, continu, et dans lequel on va avoir de l'électricité en permanence pour toutes et tous, 24 heures sur 24. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que réfléchissent en fait les ingénieurs RTE. Et dans ce cadre-là, finalement, la solution à leur problème qui leur est posé, ça va être par exemple de construire une ligne à très haute tension à cet endroit-là. Et finalement, ce que je voudrais questionner ici, c'est le cadre dans lequel ces réflexions se font. C'est-à-dire que si on prend le problème à l'envers, on pourrait aussi se dire quel est le monde dans lequel nous voulons vivre, quels sont les moyens de production d'électricité que nous voulons développer, et peut-être nous adapter à ce que l'on souhaite plutôt que de raisonner dans l'autre sens. Je vais prendre un exemple qui m'est cher, qui est un de mes amis qui a décidé, donc là on n'est pas dans la décision politique, on a la décision individuelle, je trouve que c'est quand même assez illustratif, qui a décidé de vivre avec l'électricité fournie par un panneau solaire sur une yourte et une petite batterie en plomb pour accumuler l'énergie. Et du coup, en fait, finalement, lui et sa famille s'adaptent à ça et consomment globalement 20 fois moins d'électricité qu'un foyer moyen. Donc là, on est dans quelque chose qui est une vision de la production d'énergie qui est radicalement différente de celle de RTE. RTE part, en fait, ok, on a ce besoin-là et on va adapter notre production d'électricité à ces besoins-là. Et si on raisonnait comme ça, en fait, chaque foyer qui voudrait produire son électricité devrait acheter plusieurs dizaines de mètres carrés de panneaux photovoltaïques et des batteries lithium-ion de chez Tesla à 10 000, 20 000 ou 30 000 euros pour pouvoir faire la même chose. Évidemment, du point de vue écologique, ça n'aurait strictement aucun sens. Par contre, en partant du principe « ok, je vais m'adapter à ce que je suis capable de produire en considérant que ma petite batterie lithium-ion et mon panneau photovoltaïque de 1 mètre carré, c'est ok pour moi », on peut s'adapter à cette production. Et finalement, pour faire le lien avec le procès de Patrick Pouyanné de Total Energy, qui a toujours dit que Total Energy était là pour s'adapter à la demande, Finalement, la question, c'est est-ce que finalement, à un moment donné, on ne peut pas plutôt s'adapter justement à l'offre, c'est-à-dire construire les réseaux, les moyens de production d'électricité qui sont acceptables pour nous. Et après, j'ai confiance qu'en fait, et ça a été vu dans l'histoire, j'y reviendrai tout à l'heure, on est capable de vivre avec beaucoup moins d'énergie de manière heureuse.
Merci. Et donc, on voit bien, tu as fait le lien entre cette problématique locale et puis la stratégie en fait RTE et la vision qui aujourd'hui domine. Pour continuer dans cette logique-là, avant d'examiner qu'est-ce qui pourrait être autrement, j'aimerais qu'on continue d'abord avec toi, André, puis ensuite je donnerai la parole à Alain. Et est-ce que vous pourriez nous dire, de votre point de vue aussi, à l'un et à l'autre à chaque fois, comment est-ce que les limites et les dangers de ces modes de raisonnement qu'on a encore actuellement, donc en particulier lorsqu'on a discuté un peu en amont tous les deux, André, tu parlais de la question d'une part des déplacements, des risques de déplacement de pollution liés à nos stratégies de raisonnement actuelles, et puis de ce fameux effet rebond. J'aimerais que tu puisses revenir sur ces deux notions, s'il te plaît.
Oui, par rapport à ce que disait Julien, donc peut-être pour rebondir sur tes réflexions, c'est donc l'idée de savoir à quel point les modèles énergétiques vont pouvoir continuer à nous offrir une énergie toujours plus abondante, qui plus est électrique. Et l'un des piliers stratégiques en fait que notamment l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, utilise, ou en tout cas met en avant, c'est des gains en efficacité énergétique, c'est-à-dire améliorer énormément l'intensité d'énergie, combien on doit consommer d'énergie pour produire des biens, pour produire des services, et essayer d'être plus performant de ce côté-là. Pour être un peu précis, l'AIE estime que par rapport aux objectifs que l'on a en 2050, ces gains en intensité énergétique pourraient nous aider à la hauteur du tiers des efforts à faire. Alors évidemment, on a un raisonnement relativement mécanique comme ça qui peut nous dire bah, effectivement, ça va nous permettre de porter ces efforts et de pouvoir continuer à moindre coût, disons, hein, de s'adapter notamment à ces enjeux de carbonation. Et en réalité, quand on va voir un petit peu plus loin, ce que l'on constate très souvent, c'est que le problème est beaucoup plus complexe, on l'a vu avec ton cas, Marie, beaucoup plus complexe dans mon cas, par exemple, sur l'étude de la Chine. Au milieu des années 90, le gouvernement a décidé d'améliorer l'efficacité énergétique chez les ménages chinois qui, à cette époque-là, se chauffaient avec beaucoup de poêles à charbon, des systèmes très vétustes, et qui étaient donc très émetteurs de particules dans les foyers, avec toutes les maladies pulmonaires, cardiovasculaires qu'il y avait, et une intensité énergétique désastreuse. Le gouvernement donc décide, à la chinoise, hein, c'est-à-dire une grande campagne qui mobilise à peu près tout le monde, décide de moderniser les équipements ménagers des Chinois, et notamment d'électrifier ces équipements de chauffage, de cuisson, etc. Alors effectivement, l'effet a été assez immédiat, énormément de gains en intensité énergétique, moins d'émissions de particules, donc une amélioration de la qualité de l'air dans les foyers. En revanche, pour produire cette électricité, vous le savez tous en Chine, hein, c'est du charbon, et donc ça veut dire qu'on a concentré cette consommation de charbon dans des centrales électriques. Concentrant cette consommation de charbon dans les centrales électriques, on a émis beaucoup plus de dioxyde de soufre dans des points très concentrés. Et ce que ça a provoqué, c'est une intensification radicale des puits acides. Au milieu des années 2000, la Chine, la moitié de son territoire est frappée par les puits acides, avec des pH qui pouvaient être en dessous de 3,5. Je parle aux physiciens, c'est très très acide. Donc voilà, il y a cette problématique que ces gains en intensité énergétique, généralement, en fait, les problèmes sont tellement complexes que, en résolvant un problème quelque part, on va en créer en réalité un autre. En fait, somme toute, mais je pense qu'on va revenir dessus, la meilleure énergie, au fond, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Et que l'exemple que tu évoquais, Julien, c'est effectivement l'une des solutions vers laquelle il faut aller. On peut prendre aussi, par exemple, la voiture électrique. La voiture électrique, effectivement, sauf erreur de ma part, je suis économiste, pas physicien, mais ça résoudra une grande partie des problèmes, notamment de concentration de pollution dans les villes, de particules fines. Ça, sans aucun doute. En revanche, Ça va permettre peut-être également, si on arrive à décarboner relativement l'électricité, de baisser un petit peu nos émissions de CO2, mais en réalité, on sait qu'à partir d'un modèle au-dessus d'un petit cylindre type Twingo, il vaut mieux rester à l'essence. En fait, quand on prend l'ensemble du cycle de production, c'est plus émetteur de CO2 qu'une petite voiture à essence. Donc, il faudra de toute façon se limiter dans nos moyens et dans nos cylindres. Il faudra quand même faire des efforts pour défendre, en réalité, une liberté qui est absolument fondamentale au niveau de l'Europe. Je crois que c'était le sujet de la table ronde dernièrement, qui est cette liberté de mobilité à laquelle on tient énormément. Donc on baisse les émissions de CO2, on baisse les particules fines, mais il faut créer beaucoup plus de batteries, et ça va être très polluant. Il va falloir aller chercher des métaux rares dans des pays très instables, qui ont déjà des problématiques difficiles autour d'exploitation des mines de cobalt ou de ce genre de métaux, de minéraux. Donc voilà, on voit qu'en fait, ces questions d'efficacité peuvent un petit peu nous aider, mais en réalité, on ne pourra pas faire autrement que de réfléchir à une vraie sobriété et à réellement énormément diminuer nos besoins. Peut-être un dernier mot pour bien convaincre tout le monde là-dessus. Et je vais encore faire un focus sur la Chine, mais je pense que la Chine est quand même le pays important avec l'Inde pour l'avenir en termes de changement climatique. Au début des années 2000, donc je commence ma thèse sur ces questions-là, et la Chine lance un grand programme de construction de centrales nucléaires. On parlait du nucléaire tout à l'heure. 2 centrales par an, 4 réacteurs par an, jusqu'en 2020. Le résultat, les besoins de la Chine progressent tellement vite que l'électricité nucléaire représentait 2% d'électricité en Chine en 2020. En 2020, en ayant construit à tour de bras des centrales nucléaires, aujourd'hui 4% d'électricité. Donc on voit bien qu'il faut d'abord agir sur les besoins qu'on a d'électricité, d'abord être sobre avant de penser en réalité que toute autre solution technologique pourra résoudre le problème à notre place.
Merci, alors je pense que ça fait une transition parfaite. Alors, ça doit te parler, ces questions de priorisation, de hiérarchisation des besoins et de distinguer réhabilitation, rénovation dans le domaine de l'urbanisme, du bâti qui est le tien. Est-ce que tu peux, à ton tour, justement, donner ton point de vue?
Voilà. Et puis, les effets pervers de cette course à l'énergie. Le secteur du bâtiment s'est intéressé très tôt aux économies d'énergie, il y a 50 ans à peu près, et de façon assez efficace, puisque aujourd'hui, les standards de bâtiment, sur ces 50 années, ils ont consommé de moins en moins de certains types d'énergie, pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire, pour l'éclairage, etc. Et puis il y en a d'autres, au contraire, sur lesquels ça a grimpé en masse, c'est tout ce qui concerne tous les usages bureautiques, les usages ménagers, etc. Voilà. Mais c'est pas de ça que je voudrais surtout parler, c'est d'une autre catégorie d'énergie qu'on appelle l'énergie grise. Alors l'énergie grise, c'est l'énergie qui est consommée pendant toutes les phases amont de la livraison du bâtiment. C'est pendant la fabrication, c'est l'extraction des matières premières, les transports, etc. Donc on additionne tout ça, et puis on rajoute même ce qui va se passer à la fin de vie du bâtiment, et on obtient ce qu'on appelle l'énergie grise. Et pendant que les consommations pendant la vie du bâtiment réduisaient fortement, celle en énergie grise augmentait tout aussi fortement. Il y a une quinzaine d'années, l'énergie grise représentait à peu près 20% des consommations totales d'un bâtiment, en moyenne. Aujourd'hui, on arrive à peu près aux mêmes ordres de grandeur. Et c'est logique. Quand on veut faire des économies d'énergie, on isole plus. Donc, effectivement, on fabrique plus d'isolants. 30 cm d'isolant, ça consomme plus d'énergie grise que 20 cm d'isolant. On met des vitrages plus performants. Un triple vitrage, effectivement, ça consomme plus d'énergie qu'un double vitrage. On va même aujourd'hui nous parler des bâtiments soi-disant intelligents avec pas mal d'informatique là-dedans, et on retombe sur le même problème que ceux de décrire, en plus de surconsommation d'énergie grise. Et effectivement, en additionnant tout ça, on arrive depuis quelques années là, dans une zone qui est une zone qui commence à devenir délicate, où tous les efforts qu'on va faire pour réduire les consommations d'énergie risquent d'être anéantis par, au contraire, des consommations en énergie grise plus importantes. Voilà, c'est un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui dans le bâtiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus faire des économies d'énergie n'importe comment, en agissant sur n'importe quoi. Il faut aussi, en même temps, pouvoir contrôler que les choix techniques qu'on est en train de faire ne vont pas entraîner des consommations d'énergie grise beaucoup trop importantes. Alors, on sait faire, hein. La réhabilitation, par exemple. La réhabilitation, c'est une sacrée économie en énergie grise, puisque on vient s'appuyer sur de l'énergie qui a déjà été, de l'énergie grise qui a déjà été consommée autrefois dans le déjà-là du bâtiment existant. Donc, c'est tout gagné. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, c'est principalement vers la réhabilitation qu'il faut se diriger, plutôt que d'aller construire sur du neuf, qui non seulement consomme beaucoup d'énergie grise, mais en plus va augmenter l'artificialisation des terres, etc. La autre solution, c'est évidemment tout ce qui tourne autour des matériaux, et donc privilégier les matériaux à faible impact énergétique. Et c'est donc le développement depuis un certain temps de matériaux dits biosourcés, donc à partir de l'agriculture, de matériaux géosourcés, la pierre, la terre, etc., de matériaux en réemploi, le reste, tout récemment. Donc voilà des matériaux sur lesquels l'énergie grise est beaucoup plus faible que sur le sacro-saint béton qui est hégémonique et donc il faudrait pas tarder à se passer complètement, il y a des situations dans lesquelles on est obligé de passer par là, mais c'est un matériau qui est énormément consommateur d'énergie en fabrication. Et puisque je viens de parler des matériaux et notamment des matériaux biosourcés, ça me permet de poser une autre problématique, toujours dans le même sens. Quand je vais choisir, par exemple, d'isoler mon bâtiment avec de la paille, ce qui est de plus en plus courant, hein, pourquoi est-ce que je fais ce choix? Est-ce que c'est parce que, effectivement, ça va permettre de réduire l'énergie grise consommée par mon bâtiment? Est-ce que c'est parce que ça va diminuer les émissions de CO2? Est-ce que c'est parce que je vais réduire des prélèvements de ressources fossiles plutôt que de mettre une isolation avec des produits issus de la filière pétrole? Eh bien, je vais mettre une isolation paille. Ou bien est-ce que c'est parce que mettant de la paille dans mon bâtiment, eh bien, je vais donner un débouché à l'agriculteur du territoire qui est autour de mon bâtiment et donc ainsi participer à un développement local du territoire. Vous voyez qu'il y a plein de raisons possibles et en réalité, c'est un petit peu la somme de toutes ces raisons-là qui fait que je vais choisir. Donc on ne peut plus aujourd'hui faire des choix qui soient des choix monocritères. Hein, dire, comme on l'a dit pendant des années, bon, visons tel objectif énergétique, et puis aujourd'hui on dit, visons tel objectif en CO2. Il est impératif aujourd'hui d'avoir des choix sur multicritères avec une analyse multicritère de ces choix.
Oui. Merci. Yann. Et donc Julien, tu souhaitais rebondir peut-être, mais vas-y, et éventuellement aussi, si tu peux du coup aussi nous renchérir sur, je trouve que ce qui illustre les propos qui viennent d'être tenus, sur le, c'est sur cette notion d'accumulation d'énergie au cours de l'histoire et le fait que finalement il n'y a jamais eu réellement de transition, mais que chaque fois qu'on a une nouvelle source, finalement on vient accumuler notre consommation, voilà. Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais réagir.
Non, je voulais surtout agir par rapport à une chose qu'avait dit Alain et poser une question à André. Par rapport à ce que tu disais, Alain, sur les particules fines, juste une petite précision par rapport à ce qui concerne la voiture électrique, c'est que effectivement la voiture électrique diminue d'environ 60% les émissions de particules fines par rapport à la voiture thermique, mais il reste deux sources de particules fines qui sont toujours présentes, qui sont les pneus et les plaquettes de frein, qui elles ne diminuent pas dans la voiture électrique. C'était juste pour repréciser ça. Et après j'avais une question pour Alain concernant l'isolation des bâtiments. J'avais lu une étude selon quoi, à force de faire des bâtiments vraiment à haute qualité environnementale, entre guillemets, donc avec les isolations qui sont extrêmement bonnes, on se retrouvait avec une problématique en été, et en particulier avec le réchauffement climatique. Et finalement, quand on a une boîte qui est très isolée, dans laquelle on a de plus en plus d'objets électriques qui n'ont pas été forcément anticipés dans les projections sur la conception des bâtiments, donc de plus en plus de tablettes, ordinateurs, etc. Finalement, on se retrouvait avec la température qui monte à l'intérieur de la boîte, et finalement, on se retrouve avec quelque chose qui chauffe, et avec un confort en été qui s'est dégradé avec ces nouvelles normes d'isolation. Est-ce que tu peux confirmer ça, le commenter ?
Tout à fait. Pas seulement du reste l'impact de l'isolation, mais c'est l'impact d'un changement de vitrage, d'un changement de fenêtre qui permet de mettre des fenêtres très étanches à l'air, et où c'est l'impact du choix d'un système de ventilation mécanique qui a des débits limités et donc qui rentre en contradiction. Pas seulement avec le confort d'été, c'est vrai, avec le confort d'été, puisque en été, pour être confortable, il faut s'ouvrir. En hiver, il faut se fermer. Donc, quand on fait aujourd'hui, quand on veut faire de la réhabilitation de logements, si on ne prend pas en compte en même temps la question de l'été et la question de l'hiver, on va arriver aux contre-performances que tu as dit. Mais ça n'est pas le cas que de la contradiction avec le confort d'été, c'est aussi la contradiction avec la qualité de l'air, avec la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, le net plus ultra, c'est d'assurer une parfaite étanchéité à l'air des façades, avec des scotch qu'on met dans tous les coins des bâtiments. C'est quelque chose qui est contradictoire avec la nécessité d'assurer des débits de ventilation dans les logements importants pour avoir une qualité d'air importante. En plus, on a une réglementation hygiénique en France qui sous-évalue complètement les débits de renouvellement d'air. Donc, effectivement, toute action qui va aller dans ce sens-là va être contradictoire avec l'été, avec la qualité d'air. Encore une fois, analysons les choses de façon multicritère. Si on veut s'en sortir.
Oui, bien sûr.
Ce qui me paraît intéressant aussi, hein, qu'on voit, alors, en tant qu'économiste, c'est très, très fort dans vos deux témoignages. C'est-à-dire un premier témoignage avec l'État qui passe en force et qui veut réaliser un projet parce qu'on est sur l'idée d'un développement forcené des capacités pour pouvoir imaginer qu'on va avoir ce qu'on appelle en économie la croissance verte, hein, c'est-à-dire une espèce de croissance infinie qui va résoudre tous nos problèmes. Et l'électricité est effectivement, on voit dans ton cas, une excuse très forte, une excuse, un mantra qui permet de tout justifier, c'est l'électricité, c'est donc la lutte contre le changement climatique, comme on peut, alors on va peut-être pas rentrer dans les débats sur le nucléaire, mais comme on peut aussi beaucoup justifier aujourd'hui le nucléaire par cette idée que ça n'émet pas d'énergie, comme si ça ne polluait pas par ailleurs. Et toi, de ton côté, cette idée qu'on peut avoir des solutions tout à fait locales, on voit bien là qu'on est quand même dans un système où il va falloir qu'on rentre en lutte assez forte parce qu'on remet en cause complètement, non seulement la vision de l'État actuelle, mais aussi le système économique hein, que nous, on connaît bien ici, qu'on appelle, sans aucun d'ailleurs, d'un point de vue scientifique, qu'on appelle le capitalisme, et qui nécessite par définition une croissance des débouchés, et qui donc ne peut pas se satisfaire d'une réponse, d'un projet inutile, mais il faut bien faire des affaires. Et de l'autre côté, je vais avoir des solutions plus durables, mais plus locales, mais qui vont peut-être passer en dehors du marché, et qui donc ne sont pas source d'affaires. Et ça, c'est vraiment une problématique assez redoutable, hein, qu'on, j'imagine qu'on va aborder un petit peu
oui,
bah, après.
Si tu veux enchaîner sur cette notion d'état stationnaire ouais. dont tu avais... Tu
oui,
peux,
d'accord.
Oui, voilà, vas-y.
Alors, par rapport à ça, pour continuer les discussions, donc l'idée, c'était que à quoi on a affaire aujourd'hui en termes de contradictions dans notre système économique, c'est cette idée que d'abord on a un très fort couplage entre la croissance économique, la consommation d'énergie et les émissions polluantes. On n'arrive pas à se sortir de ce système. Donc on le voit bien hein, actuellement à la COP, hein, toute cette difficulté que l'on a à dire sortons des énergies fossiles. On prend des détournements, on va baisser les émissions de gaz à effet de serre, on ne sait pas trop comment, parce qu'en fait, pour l'instant, on ne sort pas des énergies fossiles, comme tu l'as rappelé, Julien, tout à l'heure, c'est 80% de l'offre d'énergie. Donc on n'arrive pas à sortir de ces débats. Et puis par ailleurs, l'idée aussi de... Alors il va y avoir M. Fressos qui devait venir et qui défend cette idée-là, de l'idée que lorsqu'on fait les transitions énergétiques, en réalité, on accumule les énergies plutôt qu'on ne les remplace les unes par les autres. Et on le voit bien, par exemple, j'ai lu le rapport de l'IAE là, pour préparer aujourd'hui, l'intervention d'aujourd'hui, et on voit bien que les investissements, effectivement, dans les énergies renouvelables décollent énormément. Mais en fait, les investissements dans les énergies fossiles, pour autant, ne baissent pas. Donc on est vraiment dans cette idée que transition après transition, en fait, on ne remplace pas des énergies par d'autres, mais on accumule, et donc on ne va pas résoudre comme ça le système... la problématique du changement climatique et plus généralement de la pollution. Alors quelles sont les solutions que nous, dans cette contradiction qu'il y a entre croissance économique qui est nécessaire au système et pollution, qu'est-ce qu'on peut apporter? Ben, il y a d'un côté peut-être la position de beaucoup d'économistes du gouvernement actuel qui est de dire faisons confiance somme toute aux ingénieurs et ils vont nous inventer des systèmes qui vont nous permettre de continuer de croître avec des conséquences sur l'environnement beaucoup plus atténuées qu'auparavant. C'est ce qu'on appelle la croissance verte. L'autre solution hein, qu'on essaie de développer en économie, c'est peut-être d'abord avant la décroissance, c'est déjà l'état stationnaire. L'idée d'essayer d'avoir une vision plus positive de ce qu'on appelle l'état stationnaire. L'état stationnaire, c'est l'idée tout simplement d'une croissance zéro, ne plus avoir besoin de croissance économique, en tout cas la croissance du PIB. Et essayer de réfléchir à comment on peut parvenir eh bien, en quelque sorte à prendre de l'expérience sur la limitation de nos besoins en énergie en commençant par expérimenter l'état stationnaire à l'échelle des économies. Donc croissance zéro. Et effectivement, ensuite, on peut envisager une décroissance des économies. Mais alors là, je pense qu'on va en rediscuter, ça va être un sujet de débat important. Pourquoi ? Parce que les expériences de décroissance que l'on a jusqu'à maintenant, c'est les crises économiques. Bon, c'est un peu douloureux, notamment pour les précaires, hein. Donc la décroissance est extrêmement difficile à envisager. Mais dans les premières réflexions que l'on a hein, parmi les économistes sur ces sujets-là, c'est déjà essayons la décroissance dans les pays riches, chez ceux qui peuvent. C'est vrai que c'est compliqué, hein, dans les COP, d'aller voir la Chine, d'aller voir l'Inde, l'Afrique, qui va avoir des besoins de croissance gigantesques, et de leur dire, bon écoutez, nous on a des voitures individuelles, on veut continuer comme ça, on a nos systèmes de chauffage, on veut bien essayer de s'améliorer un petit peu, mais somme toute, on pollue déjà beaucoup. Donc si vous pouviez éviter vous-même de croître pour que nous on puisse polluer plus, continuer de vivre comme on le vit, là ça va être vraiment très très compliqué comme argumentation. Et donc l'idée c'est l'exemplarité. Et c'est vrai que cette exemplarité dans les COP, elle n'est pas énormément soulevée, mais l'une des voies de l'exemplarité, c'est de commencer à, chez nous,
et on parlera peut-être après de comment, chez nous, essayer de décroître, notamment en termes de richesse, c'est-à-dire par exemple, de ne plus avoir besoin évidemment hein, de changer nos iPhones ou nos smartphones tous les 2 ou 3 ans, excusez-moi pour la marque. En tout cas, essayer de changer cette société de surconsommation. Je finirai juste en disant que c'est très difficile. Parce qu'en réalité, beaucoup d'économistes, hein, dans la façon dont on raisonne, et vous savez que l'économie derrière, il y a les politiques publiques, etc., etc. Donc notre avis est hélas relativement important. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est intéressant. On raisonne beaucoup par l'idée qu'on est dans une société un peu folle, de surabondance. On consomme beaucoup trop, on pourrait se contenter de moins. Et donc si on ne le fait pas, alors qu'on sait qu'on risque... si ce n'est d'atteindre notre capacité à vivre sur Terre, en tout cas celle de nos enfants et de nos petits-enfants, pourquoi juste par frénésie, en quelque sorte, parce qu'on consomme trop, on consomme comme des fous, ben c'est irrationnel. Et ben non, en fait, c'est très rationnel. C'est parfaitement rationnel ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, faut bien comprendre quelque chose, c'est que c'est une histoire de temps. La façon dont on gère le temps. En réalité, il y a un prix au temps en économie. Nous donnons tous un prix au temps. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? Bah, c'est, pour faire simple, ce que l'on pourrait gagner si on travaillait 1 heure. Qu'est-ce qu'on gagne en travaillant 1 heure ? Donc quand on ne travaille pas, bah, on se coupe de cette possibilité de gagner de l'argent. Donc avec ce raisonnement, ça veut dire que plus on est dans des pays riches, plus le temps vaut de l'argent, plus le temps a un prix élevé. Et donc, comme tout être rationnel, qu'est-ce que l'on va faire ? On va chercher à économiser ce qui coûte cher. Donc économiser ce temps. Comment on économise ce temps ? Ben, par exemple, en ne faisant plus à manger soi-même, en prenant de la bouffe vite faite que l'on achète au supermarché, etc., etc., en accumulant les biens qui vont nous permettre d'économiser de plus en plus de temps et de gagner de plus en plus d'argent. Donc en fait, c'est très rationnel tout ça. Donc la solution en disant mais c'est irrationnel, on va vite s'en sortir, ben, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut pas être trop pessimiste. Hein.
Du coup, j'aurais bien aimé, Julien, est-ce que toi tu peux nous montrer le lien qu'il y a entre système énergétique et système technique aussi, et comment on arrive sur l'idée de low-tech ? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement abordé, mais qui pourtant est très très lié en fait, entre l'énergie et la technique, il y a un lien extrêmement fort.
Oui, bien sûr. En plus ça va permettre de faire le lien avec ce que tu disais sur la croissance zéro et l'état stationnaire, mais avant ça je voulais revenir un tout petit peu sur je dirais le temps long et un peu sur l'histoire de l'énergie et des techniques. Alors pourquoi ça ? Je vais vous expliquer d'abord d'où je parle à ce sujet. En fait, après avoir pris ma grosse claque d'urgence écologique et climatique il y a une dizaine d'années, en étant convaincu qu'il fallait arrêter d'utiliser des énergies fossiles, je me suis aperçu qu'à 40 ans, physicien, enseignant dans le supérieur, je n'avais strictement aucune idée, mais alors strictement aucune idée de comment les gens vivaient avant la révolution industrielle et comment les gens vivaient sans énergie fossile. Et c'est à une époque où justement on commençait à parler de low-tech, de sobriété, de se passer des énergies fossiles. Et je me disais, les humains ont vécu sans énergie fossile pendant des millénaires et des millénaires. Comment donc est-ce qu'ils vivaient ? Et donc voilà, je me suis penché sur ces années-là pendant plusieurs années en lisant des bouquins d'histoire. Et en fait, j'aimerais vous partager ça parce qu'en fait, je trouve ça... assez instructif et assez intéressant. Et d'abord, en commençant peut-être par, pendant les longs millénaires où on a été chasseurs-cueilleurs, donc avant même le néolithique, en fait, pour répondre à nos besoins énergétiques, en gros, hein, pour faire simple, on a besoin de l'alimentation. Okay ? Donc pour l'alimentation, mettons, si vous prenez 1 kg de nourriture par jour, 1 kg, mettons, de 1 kg de peu près n'importe quoi qui se mange, ça va vous amener 3 kWh, si ça vous parle. Voilà, ça c'est ce dont on a besoin tous les jours pour vivre. Et puis, puisque le feu fait partie, on va dire, du quotidien des humains depuis plusieurs millions d'années maintenant. On a besoin de quelques bûches de bois pour cuire notre nourriture, et donc ça c'est quelques kilos de bois par jour pour une famille, bon, ça va faire quelques kilowattheures de plus. Donc en fait, en termes de besoins énergétiques, en tant qu'humain, on a vraiment besoin de une dizaine de kilowattheures par jour. À ça, vous rajoutez, si vous vivez dans un pays froid, quelques bûches en plus pour se chauffer. Éventuellement, ça c'était un luxe pendant très longtemps, mais pour ajouter ça, et en fait vous arrivez à globalement voilà, entre 10 et 20 kWh par jour. Ça c'est uniquement avant le néolithique. Et puis c'est trouver quelque chose au néolithique qui est en plus de l'invention de la transition vers l'agriculture que tout le monde connaît, il y a surtout l'élevage. Et en fait, quand on regarde du point de vue énergétique, on s'aperçoit que la contribution du travail animal dans les sociétés industrielles qui utilisent l'élevage est vraiment extrêmement importante. Je pense que vous avez toutes et tous déjà visité des fermes dans lesquelles vous avez ces espèces de grosses meules en pierre qui étaient présentes dans quasiment toutes les fermes, avec soit un âne, soit un cheval ou un bœuf. En fait, il faut se rendre compte qu'à partir du néolithique, il y avait un gros besoin d'énergie pour transformer le grain en farine et après en faire du pain. Et ça, c'est quelque chose de long, pénible, etc. Et ça a été une grosse source de besoin d'énergie qui a été en grande partie remplie par le travail animal. C'est vraiment, si vous regardez dans les sociétés pré-industrielles du Moyen-Âge, on se retrouve avec quasiment 60% de l'énergie qui est apportée par ce travail animal et le reste est apporté par les humains. Et vous avez un petit peanut de plus qui est apporté par les roues hydrauliques, bien par les moulins à vent, etc. Mais ça, c'est non nul, hein. Mais ce n'est pas la partie la plus significative. Et en fait, jusqu'à la révolution industrielle, en fait, ça a été ça le système énergétique dans lequel on a vécu, avec la consommation énergétique qui n'a jamais dépassé 20 kWh par jour et par habitant. Juste pour vous donner un ordre de comparaison, actuellement en Europe, c'est 150 kWh par jour et par habitant. Et donc, ce qui s'est vraiment passé au niveau de la révolution industrielle, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable au niveau de la consommation énergétique, puisque pour la première fois, on sortait d'en fait une limitation que les historiens des techniques appellent la barrière de la photosynthèse. Pourquoi ? Parce que toutes les sources d'énergie dont je viens de vous parler, que ce soit l'alimentation, le bois pour se chauffer ou le travail animal, en fait, tout provient du soleil et de sa transformation en énergie chimique via la photosynthèse, que ce soit par la croissance des forêts, la croissance des prairies, etc. Et ça, en fait, c'est une limite. La photosynthèse a un rendement depuis l'énergie solaire qui est relativement faible. Donc, c'est ça qui limitait en fait, la consommation énergétique dans toutes ces sociétés. Et en fait, lors de la révolution industrielle, on s'est mis à taper dans le trésor, on a gagné au loto énergétique, et on a eu une énergie qui était hyper abondante, non limitée, et en fait, si on voulait plus d'énergie, on n'avait qu'à creuser. À creuser plus, après on a mis au point des machines qui nous permettaient de creuser encore plus vite, encore plus profond, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un truc complètement incroyable dans l'histoire de l'énergie et de l'humanité, parce que ça n'avait strictement aucun équivalent avant. Et même cette énergie abondante procurée par les énergies fossiles, elle nous a même permis d'exploiter de manière encore plus efficace d'autres sources d'énergie, comme par exemple, on avait des roues hydrauliques, mais on les a faites beaucoup plus grosses en métal, ça permet de fabriquer, d'alimenter des usines. On a fait des éoliennes qui, pareil, sont devenues plus grandes en métal, de plus en plus efficaces. Donc on a utilisé cette énergie abondante pour extraire encore plus d'énergie. Autre exemple, c'est les forêts. Bien sûr, on continue à utiliser du bois, on utilisait encore plus de bois parce qu'on avait des machines qui permettaient d'exploiter de manière encore plus efficace les forêts. Et ça n'a toujours pas. C'est toujours le cas. Vous avez déjà vu ces espèces d'énormes moissonneuses à forêt, là, qui rentrent dans les forêts, qui juste récupèrent les arbres. Ça, évidemment, c'était inenvisageable dans les sociétés pré-industrielles. Et donc, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est vraiment là-dessus. C'est on est dans cette ère des énergies fossiles qui est en fait une anomalie. Une véritable anomalie qui forcément, de facto, se terminera un jour parce que les énergies fossiles sont limitées, qui représente une infime partie de l'histoire de l'humanité et dont on n'a même pas, je dirais, l'imaginaire de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir un autre monde que celui dans lequel on vit actuellement, parce qu'on est né dans les énergies fossiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez vertigineux, en fait, quand on prend conscience de ça. Et alors, du coup, les réflexions, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'essayer de sortir de ce temps exceptionnel et d'essayer de se projeter dans à quoi pourrait ressembler un monde sans énergie fossile, du tout. Soit parce qu'on n'en a plus, soit parce qu'on a décidé à la COP29 d'arrêter d'exploiter les énergies fossiles. 28, je crois que c'est foutu, mais peut-être la 29, on a une chance quand ils auront écouté ce qu'on a fait à la COP28 à Bordeaux, la vraie. Et ça, du coup, c'est vraiment pour moi une réflexion hyper intéressante et qui fait le lien avec, tu disais, les low-tech, c'est-à-dire avec les collègues auxquels on a réfléchi sur les low-tech. Pour nous, ce qu'on appelle les low-tech, c'est des technologies d'une société pérenne. Alors ça veut dire quoi une société pérenne? C'est une société qui pourrait perdurer à peu près identique, avec une consommation énergétique à peu près identique, etc., pendant plusieurs millénaires, voire si on est vraiment sur long terme, un million d'années, à quoi pourraient ressembler des sociétés comme ça. Et quand on se penche sur ces questions-là, en fait, c'est assez vertigineux, mais très clairement, par exemple, pour revenir à ce côté témoignage de Marie, sur lequel on a démarré cette table ronde, personnellement, je ne suis pas sûr qu'on ait d'électricité, par exemple. Parce que l'électricité, c'est quelque chose qui est apparu après la révolution industrielle, très clairement. Et savoir si, sans énergie fossile du tout, et dans, mettons, 500 ans ou 1000 ans, on aurait de l'électricité, des lignes à haute tension, à titre personnel, j'en suis pas intimement persuadé. Et donc réfléchir à ça, c'est un peu s'extraire de ce moment très particulier qu'on vit actuellement, et d'essayer de se projeter dans le long terme. Je trouve que c'est assez aussi intéressant de le faire.
Merci, et du coup... Tu viens d'ouvrir donc une piste de réflexion sur comment on pourrait se projeter dans autre chose. Tu parles des low-tech, du renoncement peut-être à l'électricité, voilà, tu évoques comme une piste. Et j'aimerais bien redonner la parole à Alain, parce que dans le titre du manifeste auquel tu as contribué, il y a le terme de frugalité. Et j'ai l'impression que donc ça fait le lien. Est-ce que justement tu peux nous redire ce que vous entendez par là et comment ces vivacités à l'intérieur des territoires, ça peut aussi être des voies pour ouvrir des nouveaux imaginaires et nous aider à sortir de cette dépendance et de ce régime toxique dans lequel finalement on s'est enfermé depuis peu, tu nous dis Julien, donc peut-être justement on n'y est pas, peut-être en sortir encore.
Alors. Peut-être d'abord un petit mot par rapport à ce que vient de dire Julien. Cette histoire du low-tech, ça ouvre effectivement des perspectives et des réflexions énormes. Je voudrais simplement mettre un petit bémol, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire, je ne sais pas ce que tu veux dire, hein. Et ça ne veut pas dire revenir à des techniques comme autrefois. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la société qui fait que on est obligé de tenir compte d'un certain nombre de choses. Je parlais tout à l'heure de la qualité de l'air intérieur dans les logements et donc des problématiques de santé à l'intérieur des logements. Bon, c'est quelque chose sur lequel on a un petit peu avancé, pas encore assez, mais qu'il ne faut pas perdre. Et donc ça a évidemment des conséquences sur les techniques qu'on veut mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Sinon, donc la frugalité. Revenons à l'étymologie. Frugalité, ça vient du latin, frugalitas. Et frugalitas, c'est la bonne récolte de fruits. Et tout est là-dedans. La bonne récolte de fruits, c'est celle qui va rassasier la population sans épuiser le territoire. Et on a les deux termes qui donnent la frugalité, c'est-à-dire un arbitrage à trouver, territoire par territoire évidemment, un arbitrage à trouver entre, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, entre production et besoin. C'est donc un autre arbitrage que celui qui existe aujourd'hui, où aujourd'hui effectivement on ne limite pas les besoins et les consommations grandes à la vitesse grand V, et donc on s'imagine qu'on va arriver à adapter la production, ce qui nous amène rapidement dans un grand mur, je pense, parce que j'y crois pas, je ne pense pas qu'on arrivera à multiplier les petites centrales nucléaires, qu'on arrivera à capter du CO2 en quantité suffisante, etc. Hein, donc on va arriver à un mur. Voilà, donc ça c'est la situation. Et effectivement, dans une réflexion frugale, donc qui n'est pas tout à fait sobriété, hein. Frugalité c'est un peu différent de la sobriété. Dans la sobriété, il y a, surtout telle qu'elle est conçue aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction à réduire les consommations. Dans la frugalité, il y a un équilibre à établir entre les besoins, parce qu'il y a encore des besoins, il y en a qui ne sont pas satisfaits du tout et qu'il faut satisfaire, entre les besoins et la production. On sait faire, hein. Les techniques, elles existent. Il n'y a pas grand-chose à inventer là-dessus. Depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup d'évolutions dans les techniques de bâtiment. On sait aujourd'hui faire des bâtiments sans béton et sans PVC. Donc avec des matériaux dont je parlais tout à l'heure. On sait aujourd'hui faire des bâtiments sans ventilation mécanique, avec des ventilations naturelles, et on sait faire des bâtiments qui sont tout aussi confortables que les bâtiments en ventilation mécanique. On sait aujourd'hui, sur pratiquement la totalité du territoire hexagonal, faire des bâtiments sans climatisation, avec du confort d'été par des solutions passives. Et puis on sait même, peut-être pas partout sur l'Hexagone, mais dans pas mal de régions, faire des bâtiments sans chauffage. Voilà, donc on sait faire. Le problème, c'est pas tellement de trouver les techniques et les solutions architecturales, le problème, c'est de donner une extension aux solutions qui existent déjà, hein. Et donc effectivement on se heurte, comme tu le disais tout à l'heure, au problème du marché. Je prends qu'un exemple, les isolants bio, enfin les isolants, puis pas que les isolants, du reste les matériaux biosourcés, géosourcés ou de réemploi, ont du mal aujourd'hui à trouver leur place sur le marché. Et du reste, le mouvement de la frugalité heureuse et créative a lancé une pétition pour ramener au taux bas la TVA sur ces matériaux, qui serait un moyen de donner le coup de pouce dans le marché, parce qu'on sait bien que ça s'est toujours passé comme ça avec les produits nouveaux qui arrivent. Dans un premier temps, ces produits sont beaucoup plus chers que le reste. Et puis ceux qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils sont très bons, ensuite ça va se retrouver à peu près dans les mêmes eaux. Donc il y a une période comme ça, une période intermédiaire sur laquelle il faut un peu plus.
Avant qu'on passe à un dialogue aussi avec la salle, je voulais te proposer, Marie, est-ce que toi il y a des éléments que tu as entendus dans nos trois autres intervenants et qui éventuellement résonnent par rapport à la lutte à laquelle tu contribues? contribue ou à d'autres choses sur que tu voudrais ajouter avant qu'on rentre dans le jeu de questions-réponses.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Il y a un point qui est probablement, qui pour nous est le plus important, c'est que, ok, pour du développement, un développement raisonné, mais la problématique, on le voit très bien dans ce dossier, c'est qu'on nous oppose en fait développement et environnement. Or, on peut très bien faire du développement tout en respectant l'environnement. C'est absolument pas ce qui se passe chez nous. On a quand même une instance qui est une instance d'expertise qui est nommée par le ministère de l'écologie, qui se doit d'être garant en fait de la réglementation existante, qui dit non, ce projet n'est pas valable en l'état. Il faut savoir que cette instance, elle ne statue pas sur le fond. Elle vérifie simplement si le dossier est en compatibilité avec les textes réglementaires de protection de l'environnement. Et finalement, l'État bafoue complètement puisque la consultation est obligatoire, c'est-à-dire que le dossier pour tout projet qui va impacter l'environnement doit saisir cette instance pour avoir un avis, mais par contre l'avis n'est que consultatif. C'est-à-dire qu'on s'en moque éperdument. Et ça, ça n'a pas de sens. On est là dans une communication paradoxale et qui devient insupportable. Et ce que je voulais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, même si nous, de notre côté, c'est un projet très particulier qui va générer une surcapacité, enfin, qui va aggraver la surcapacité existante, qui restera à la charge des contribuables et qui, aujourd'hui, va être extrêmement impactant pour l'environnement et probablement, potentiellement, pour la santé publique, mais je pense qu'il y a, faut repenser les choses en respectant l'environnement et surtout que ces projets menés par l'État soient dans l'obligation de respecter les lois qu'il a lui-même créées. Parce que la problématique est là en fait, c'est que l'État passe en force et l'État bafoue complètement ce qu'il met en place. Alors on vous demande d'avoir des éco-gestes, on vous demande de faire attention justement d'être davantage résilient et eux arrivent et détruisent des écosystèmes comme des cordons dunaires, on sait à quel point c'est fragile, ils détruisent des zones humides, on sait aussi quelle est l'importance des zones humides, ils détruisent des zones qui sont des Natura 2000, donc quel était l'intérêt d'aller les classer Natura 2000 pour protéger justement des espèces qui sont en voie de disparition et d'arriver avec des grands panneaux marqués RTE, donc l'État est autorisé une destruction totale et ça c'est insupportable.
On va pouvoir rentrer. Oui, ben, tu peux prendre le micro là. Je vais peut-être. On peut se partager.
Bonjour, Caroline, je suis aussi membre du collectif. Donc, ce qu'il faut savoir en effet, c'est que nous avons été victimes d'un simulacre de démocratie. C'est très positif de voir que des scientifiques se remontent en collectif donc, depuis 2020. Donc, ça, c'est la force du collectif. Et je voudrais savoir de quelle façon vous pourriez nous aider en nous donnant des clés concrètes d'action, de prise de parole, puisque Julien, tu as toi-même dit de façon très affirmée que l'électrification ne serait peut-être pas possible dans l'avenir et que tu ne voyais pas l'avenir avec des lignes de très haute tension. Donc de quelle façon tous les trois scientifiques qui sont là, puisqu'on sait que c'est aussi un groupe économique, un projet inutile, et vous-même de quelle façon Alain pouvait proposer des pistes de réflexion, des clés, des prises de parole qui pourraient nous aider dans notre action, puisque nous irons jusqu'au bout pour défendre notre droit à un environnement sain. Merci.
J'ai pas bien compris la question.
Quelles sont les clés que vous proposez en termes de prise de parole, puisque c'est le but du collectif des scientifiques en rébellion de se faire enfin entendre hein, au-delà des études que vous menez. Comment vous pourriez nous aider concrètement? Puisque nous engageons des actions juridiques, il faut savoir que la dune commence à être creusée avec le funeste projet donc de faire un puits de 15 mètres pour relier justement ce qui passait sous mer à un atterrage, je le répète, à 1 mètre. C'est totalement inédit, hein, ça n'a jamais été fait. Et on suppute quand même le risque sanitaire et très présent.
Je peux peut-être répondre pour, en tout cas, ce qui concerne le milieu du bâtiment. Et de l'urbanisme, ben, on a des beaux exemples quand même de la façon dont. Alors, je ne les appellerai pas scientifiques, hein, ceux qui font mon métier, les architectes, les ingénieurs, etc., peuvent intervenir. C'est d'abord sur le projet de l'A69, un projet alternatif, sur Notre-Dame-des-Landes, également un projet alternatif, sur le Triangle de Gonesse à Paris, un projet alternatif, etc. Dans la plupart de ces grandes luttes, les architectes, paysagistes, ingénieurs, etc., sont intervenus pour, disons, mettre leurs compétences au service des luttes. Et c'est un élément qui a son importance aussi, parce que ça permet, c'est ce qui a été dit dans la dernière, dans la conférence précédente, de créer un autre récit. Voilà. Pour aller dans ce sens-là, donc, dans le mouvement de la frugalité, on est en train de mettre sur pied un groupe d'expertise dans nos domaines à nous, et donc qui pourra être mis comme ça à disposition des différents collectifs en lutte.
Juste peut-être pour compléter, alors je ne sais pas si ça peut vous être utile, hein, mais l'idée c'est qu'effectivement ces questions-là sont de plus en plus traitées à l'université, et donc il ne faut pas hésiter aussi à venir mobiliser un peu les compétences qu'on peut avoir, notamment je pense en termes juridiques. Le droit est beaucoup en train de changer là-dessus, il y a énormément de formations juridiques qui se montent sur ces questions de l'environnement, et évidemment, tout autour des conflits d'usage qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'environnement. Et donc voilà, il y a la possibilité non seulement de venir voir des spécialistes, il y en a pas mal à Bordeaux, mais aussi il y a des étudiants. Parce que je pense que les étudiants, la jeunesse a envie énormément de se mobiliser, et ça peut être des moyens de se mobiliser, et ça peut être aussi reconnu comme un engagement maintenant dans le cadre de ces études, et valorisé en plus durant ces études. Il y a peut-être aussi un fruit de ce côté-là. Tellement un peu naïf ce que je viens de dire. Je pense que ça s'appelle l'éthique.
Oui, mais je voulais témoigner sur la difficulté de s'entendre avec les pouvoirs publics sur ces questions-là. Parce que, comme l'a rappelé Alain Bornarel, l'énergie grise des matériaux est quelque chose de très important. Et quand on réhabilite plutôt que de construire du neuf, évidemment, le bilan est très intéressant. Sauf que vous avez l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, parce que c'est quand même le bras armé du gouvernement pour tout ce qui est rénovation des quartiers, etc. Et l'ANRU reste toujours sur une doctrine de démolition. C'est-à-dire, si vous voulez avoir accès à des financements importants, à des financements très importants, pour chaque logement démoli, vous allez pouvoir, vous, collectivité, avoir accès à des financements. Donc on reste toujours dans cette logique. Donc moi je suis à Toulouse, là, il y a un quartier qui s'appelle le quartier du Mirail, et on est en train de ferrailler, comme on dit, avec le président de la métropole, puisqu'il a décidé de démolir 5 bâtiments, qui sont des bâtiments de grande qualité architecturale, de Georges Condylis, l'architecte, élève de Le Corbusier, mouvement moderniste, donc des appartements transversants, avec ventilation naturelle, de l'espace, des vues sur les grands paysages, etc. Donc vraiment des très très beaux bâtiments, mais également des bâtiments qui remplissent tout à fait leur rôle aujourd'hui. Donc il y a quand même près de 1500 logements qui sont prévus à la démolition. La première démolition a démarré tout de suite. Donc en plus, quand on voit le manque de logements qu'on a, avoir des bâtiments comme ça, qu'on démolit, c'est assez incompréhensible. Ces bâtiments, bien sûr qu'il faut les rénover, hein, c'est tout à fait sur quoi souhaite s'engager la métropole, mais ils sont là également très bien conçus, puisque structurellement la façade n'est pas porteuse, donc on peut substituer une façade, comme l'expliquait Alain Bornarel tout à l'heure, qui va avoir des qualités thermiques, d'énergie, etc. Mais non, rien à faire quand même, la démolition est programmée, malgré des bilans carbone qui démontrent d'une façon évidente que démolir et reconstruire a un impact carbone énorme, et la politique de la ville qui reste toujours axée sur cette idée, on démolit avant quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est également, bien sûr, d'amener de la mixité dans ces cités, parce que cet exemple-là, on peut le multiplier beaucoup dans toute la France, mais la mixité, on peut la retrouver à l'échelle du bâtiment, on n'est pas obligé de la retrouver à l'échelle du quartier. Et ce qu'on reproche à ces bâtiments, souvent à ces quartiers, c'est de manquer de mixité, mais réellement, ce qui manque, c'est effectivement du social là-dedans, et ce n'est pas les bâtiments qui sont en cause. Donc s'attaquer à des bâtiments, c'est vraiment pas supportable.
Petite réponse, hein, parce que c'est un vaste sujet. Effectivement, l'exemple du Mirail, il n'est pas isolé, il y en a d'autres. Hein, il y a un bâtiment, le bâtiment de l'INSEE en banlieue parisienne, il y a l'Almagar à Roubaix, etc. Hein, donc, voilà. Chaque fois, effectivement, il y a des collectifs qui se sont montés pour revenir sur ces positions-là, qui ne gagnent pas tous les coups, ça c'est clair. Pour moi, ça pose un problème plus large. C'est sur quoi, du point de vue des décideurs, sur qui peut-on s'appuyer aujourd'hui? Effectivement, moi je ne crois pas à une évolution brutale comme ça des niveaux centrales des décideurs. Par contre, moi ce que je constate, c'est que l'innovation dans le bâtiment, ce qui a fait évoluer les choses, a été pendant très longtemps le secteur HLM. Il avait eu d'autres chats à fouetter, le pauvre, et l'innovation a été reprise par sur les lycées, sur les collèges, donc par des collectivités comme les régions, les départements. Mais aujourd'hui, sur toutes les solutions alternatives dont je parlais tout à l'heure, l'innovation, elle vient des petites collectivités. Énormément de bâtiments. Il y a plusieurs milliers aujourd'hui de bâtiments construits en terre crue en France depuis les 5 dernières années et qui sont pour une grande majorité d'entre eux des bâtiments, une extension d'une école de 3 classes, une salle des fêtes, des choses comme ça, et des bâtiments dont la maîtrise d'ouvrage et des petites collectivités avec des maires qui soit sont déjà convaincus, soit forment une vraie synergie avec l'équipe de concepteurs et de maîtrise d'œuvre, les architectes et les bureaux d'études. L'avantage de ces petites collectivités, c'est que le maire est décideur et quand il prend une décision, elle est tout de suite en œuvre, ce qui n'est pas le cas dans les grosses machines. Dans lesquels il y a une multitude de cloisonnements avant que la décision n'arrive. Donc ça, c'est un vrai changement et du coup, c'est là-dessus, je pense, qu'il faut s'appuyer hein, pour faire avancer les choses.
Oui, donc je voulais témoigner, donc je suis un citoyen sensible aux questions environnementales, j'ai 60 ans. Et quand on est sensible aux questions environnementales, il y a quelque chose qui nous guette, c'est la dépression. Parce que c'est assez déprimant quand même. Et là, depuis ces dernières années, se sont créés des groupes de jeunes activistes, militants. Je pense à Dernière Rénovation, Extinction Rébellion, Youth for Climate. Il y a une espèce de prise de conscience française, mais aussi internationale. Quelque chose qui m'a vraiment remonté le moral, c'est quand j'ai vu la création des scientifiques en rébellion. Parce que là, je me suis dit, eh bien, le savoir, il va arrêter d'être seulement dans les universités. Les scientifiques se mouillent, se mettent à militer. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, citoyens lambda, nous remonte le moral, parce que les scientifiques vont faire un peu la vie dure aux élus et aux politiciens qui prennent des décisions avec les médias en manipulant plus ou moins des citoyens lambda qui ne connaissent rien. Là, nous, citoyens lambda, on va pouvoir s'appuyer sur les scientifiques et le mouvement militant pour l'environnement va s'appuyer sur des choses scientifiques. Et là, les élus et les politiciens, ils vont avoir un peu plus de mal. Et donc, merci. Merci.
voire deux.
Il y avait une dame, je crois, derrière vous.
Partager un moment. Je suis désolée.
Est-ce que j'ai vu?
Bon, je voulais complémenter un peu sur le sujet de la RTE. Souvent, on la présente comme un acteur qui subit une demande qui n'est pas, qui échappe à son contrôle, alors qu'elle pourrait quand même être un acteur qui peut changer un peu la courbe des demandes en faisant appel à des moyens. Et par exemple, si on veut qu'elle puisse s'adapter au photovoltaïque, et le photovoltaïque, je veux juste clarifier, n'est pas intermittent et est une ressource variable. Et c'est mon domaine, donc c'est quelque chose que j'aime bien de toujours clarifier. Et puisque nous ça, pouvons prédire la ressource solaire à 3% d'incertitude par an. Donc on peut quand même avoir des bonnes prédictions de l'énergie qu'on va avoir pendant l'année. Et avec cela, je pense qu'on peut. En tant qu'opérateur d'électricité, on pourrait penser à essayer de faire en sorte que le cœur s'adapte. Par exemple, j'ai entendu les témoignages d'une collègue en Californie pendant les périodes d'incendie en 2021. L'opérateur du réseau, ils avaient envoyé des SMS à tous ses clients en leur demandant de débrancher des équipes et étendre des équipes pendant les heures de pointe, et ils se sont retrouvés avec une baisse d'électricité de 25% pendant la période de la semaine où ils ont demandé cette baisse d'électricité. Donc on peut aussi compter avec les clients pour réduire ses besoins. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que dans le cas de la France, on exporte beaucoup d'électricité, on exporte de l'électricité à l'Angleterre, mais aussi cela pourrait nous permettre d'établir des conditions de vente à d'autres pays qui vont après devoir aussi s'adapter à des courbes qui pourraient être plus en face avec les ressources comme le soleil et le vent.
Peut-être prendre une dernière question s'il y en a une, et sinon ce que je propose, c'est éventuellement, il y a beaucoup de questions là qui fusent encore. Madame Fessy, une question.
Oui, qu'il ne soit pas un commentaire.
Bonjour.
Madame, de mon côté, on ne prend pas mes questions. Donc,
qu'est-ce que je fais alors?
Il y a peut-être aussi qui attendent gentiment depuis tout à l'heure.
Moi aussi, mais.
Bon, on arrête tout.
Désolé, je m'appelle Thierry, j'ai 24 ans, après-demain. Je voulais faire une remarque et poser une question. La remarque, c'est que le droit administratif, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ce genre de lutte. On arrive à gagner contre l'État, les juges administratifs ne sont pas complètement achetés par l'administration, il ne faut pas le croire. Ça fait 30 ans que je fais du droit administratif et que j'arrive à gagner de temps en temps contre mon employeur, les postes. Donc c'est possible, et c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut s'enfoncer. C'est compréhensible. Moi, je suis biologiste à l'origine, donc le droit administratif, je l'ai appris sur le tas, et je gagne des affaires. Donc, c'est faisable, et c'est à la portée du premier crétin venu. Deuxième élément, là, c'est ma question. Je voulais parler de la fusion nucléaire. Quand je suis né, on disait qu'il fallait 30 ans pour arriver à la maîtriser. Quand j'ai fait mes études de biologie, on me disait qu'il faudrait 30 ans pour arriver à la maîtriser. Aujourd'hui, on commence à voir une avancée dans le domaine. Sauf que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les coûts écologiques derrière, puisque, a priori, il y a le coût principal, c'est des électroaimants monstrueux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette énergie quand on nous vante les mérites extraordinaires?
Alors, ouais. Je ne sais pas s'il va ouvrir une nouvelle table ronde, monsieur, avec sa question. Julien, est-ce que tu peux éventuellement répondre très rapidement, s'il te plaît?
Je peux répondre très rapidement que la plupart des physiciens et physiciennes qui travaillent sur la fusion nucléaire sont eux-mêmes ou elles-mêmes intimement persuadés que ce n'est pas quelque chose qui va produire de l'électricité pour le grand public prochainement. Et que les gens, généralement, qui font appel à la fusion nucléaire, c'est plutôt des gens qui vont éviter de remettre en cause le business, de pouvoir continuer le business as usual. En fait, ça fait partie des classiques de l'inaction climatique, du genre, on va trouver une solution technologique à notre problème qui est la fusion nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi ça ne va pas fonctionner maintenant, mais il y a pas mal de problématiques derrière la fusion nucléaire, donc on peut l'évacuer du débat, puisque l'urgence climatique, c'est maintenant.
Merci pour cette question. Alors, il me reste à remercier nos quatre intervenants, remercier le public pour son écoute et pour les questions. Et puis je propose que donc on clôture ici maintenant cette table ronde.
Je veux dire que je danse et j'ai l'impression que je danse. La terre entière frappe mon crâne et je danse. La terre entière n'arrive pas à dormir, je danse. Elle appelle les flics, je danse. Elle me déteste, je danse. Elle voudrait me tuer, je rigole, je danse. Elle veut que je sois une carcasse, je suis sur une carcasse, je danse. Je danse sur une carcasse, je danse. Je danse sur sa carcasse, je danse. Elle ne peut pas dormir et je danse. En pleine nuit, je danse. Sur sa carcasse, je danse. Je ne dors pas, je danse, je danse.
Ça sert à rien.
Quoi ?
Ça sert à rien d'essayer de bouger. La terre ne bouge plus depuis longtemps. Maintenant, il s'agit de brûler toutes les allumettes. Je crois. Je crois que nous sommes en train de brûler toutes nos allumettes. J'ai toujours l'impression, en tout cas, que... Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je ne bouge plus. Je n'arrive plus à bouger. La terre n'arrive plus à bouger. Je crois que la terre ne bouge plus depuis longtemps. Je crois que la terre s'est arrêtée de bouger, mais que nous n'avons rien remarqué. Je me réveille au milieu de la nuit, je veux crier très fort, mais aucun son ne sort de ma bouche. Aucun son ne sort de ma bouche et mon corps est aspiré par le lit. Je crois que mon cerveau est gelé. Je crois que le mythe selon lequel le noyau de la terre est constitué de feu n'est qu'un mythe. Je crois que le noyau de la terre est constitué de glace. Je crois que le noyau de la terre est un gros bloc de glace qui ne bouge plus depuis longtemps. Je le sais. Parfois je me mouche, c'est de la glace pilée.
Parfois mes jambes se mettent à danser dans la nuit.
Je ne bouge plus depuis longtemps.
Je me réveille au milieu de la nuit et je danse.
Je ne bouge plus, sauf pour faire des choses qui n'ont pas de sens, puisque la congélation n'a pas de sens.
Souvent mon cerveau me fatigue et je ne peux pas dormir.
Je bouge là pour faire des choses qui n'ont pas de sens, puisque la congélation n'a pas de sens.
Je vis les choses à 100 à l'heure.
Ma congélation n'a pas de sens.
Je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour bien dormir.
La congélation de la Terre n'a pas de sens.
Mon cerveau m'empêche de dormir.
La Terre ne bouge plus du tout.
Je bouge beaucoup, mais personne ne s'en rend compte.
Personne ne l'a encore remarqué. Et quand ma mère passe au milieu de la nuit, dans la cuisine, pour aller chercher un verre d'eau, elle ne voit pas son fils crier dans le silence. Elle ne voit pas son fils immobile comme la terre et son noyau de glace. Elle ne voit pas son fils crier qui ne bouge plus, qui ne peut plus bouger. Elle ne voit pas son fils crier comme la terre qui ne peut plus bouger, qui ne bouge plus du tout, le nez congelé parce qu'il n'a plus de mouchoir. Désolé pour la danse. Je devrais arrêter de bouger.